ça c'est la musique qui se joue encore, ce type de musique là, au Sénégal, parce que...
Ah oui, c'est recherché. Ah oui, c'est recherché là, on va la voir. Ouais. Ah oui, c'est recherché. Beaucoup de gens le trouvent maintenant sur la table. Sinon, pour trouver ce genre de musique...
T'aimes bien ça, toi, hein?
Ah oui, il vient de Madrid.
Ça, c'est de la musique sénégalaise des années 60. Qu'est-ce qu'on appelle le plaga?
Malakouet, c'est ça. Hein? Et voilà. Ah, elle danse très bien. Mais elle comprend très bien. Ça se passe très bien. Oh, elle danse.
Mesdames, messieurs, j'ai eu un tourné. Allez, viens t'asseoir. Bon, je te laisse t'installer. De toute façon, je commence toujours en musique avec quelques petits morceaux que j'ai sélectionnés. Voilà, ben, voilà. Je suis trompé, quoi. Donc, Festival Chahut, 5e Charles avec Julien
Tu ne connais pas Susanna. Susanna, c'est ma femme. C'est ma femme puisque nous sommes mariés depuis plus de 17 ans maintenant. Elle était très gentille auparavant. Je lui disais, Susanna, donne-moi de l'eau. Et elle m'apportait de l'eau à boire. De l'eau claire, hein? Très bonne. Je lui disais, Susanna a fait ceci, et elle faisait. Fais cela, et elle obéissait. Et moi, j'étais content. Je regardais tout ça avec bonheur. Ah, je te dis que Susanna était une très bonne épouse auparavant. Hein. Seulement depuis quelques jours, les gens-là, ils ont apporté ici la condition féminine. Il paraît que là-bas chez eux, ils ont installé une femme dans un bureau pour qu'elle donne des ordres aux hommes. Aïe, tu m'entends des choses pareilles? Et depuis, toutes les femmes de notre pays parlent de la condition féminine. Maintenant, je dis à Susanna, donne-moi de l'eau. Elle répond seulement que la condition féminine, il faut que j'aille chercher l'eau moi-même. Je lui dis, Susanna, donne-moi à manger, j'ai faim. Elle ne m'écoute même pas, hein? Elle me parle seulement de la condition féminine. Bref, il faut te dire que ma condition masculine est devenue très malheureuse ici. Alors j'ai dit à Susanna, écoute, moi je ne connais qu'une seule condition féminine. La femme obéit à son mari. Elle lui fait à manger. Elle lui fait des enfants. Voilà tout. Tu sais que Susanna s'est fâchée. Elle est venue me parler à haute voix, comme si elle était un homme. Moi, je l'ai battue, hein. Elle a crié pour appeler tout le village. Moi, je lui dis seulement, ne crie pas, ne crie pas. Tu me parles toujours de la condition féminine. Alors moi aussi, je vais te montrer la condition masculine aujourd'hui. La condition féminine, tous les jours, tu me dis la condition féminine. Moi, je te donne seulement la condition masculine. Eh, hey, dis donc, la condition féminine, est-ce que c'est même plus grand que la condition masculine?
Allez, attends, regarde, il y en a là, regarde. Attrape-le, tu vois, je savais qu'il allait servir ce papier toilette qui était là, hein, sur les ancêtres. Bonjour, Julien.
Bonjour.
Bon, il y a eu quelques galères, Julien, de train SNCF qui sont arrivés très tard, ce matin. Alors, ça, je vais lever ça. Donc, tu connais Francis Bébé, tu peux nous en dire un petit mot?
Bah, c'est marrant parce que Francis Bébé, d'ailleurs, j'ai découvert ici même à Bordeaux, il y a à peu près 6 ou 7 ans, par le biais de... À l'époque, on venait beaucoup en résidence au TNT Manufacture de Chaussures. Et il y avait là quelques personnes qui nous avaient invités chez eux, ils nous avaient fait écouter Francis Bébé. Et donc on avait découvert la condition masculine, donc on avait aussi donc, politiquement découvert une nouvelle phase de notre parcours.
Donc en off, là, quand on discutait, on parlait de musique, je te disais... T'es musicien, tu as hoché un petit peu de la tête avec une forme de doute. Pourquoi ça?
Oui, parce que j'ai pas fait le conservatoire, parce que je sais déchiffrer, mais je sais pas vraiment lire la musique. Je peux pas dire que je suis musicien. Après, je pianote, je fais de la guitare, du banjo, des choses comme ça. Mais il y a 5 ans, nous sommes venus ici même à Bordeaux pour Chahut pour jouer un spectacle qui s'appelait Cheval. Là, je vais le prendre si tu veux. Hein. Et Cheval, justement, c'était marrant parce que c'était juste avant qu'on aille à Avignon. On était programmé dans la programmation officielle d'Avignon, c'était la première fois. C'était extrêmement flippant. Et donc on avait une date juste avant à Chahut, à Bordeaux, et on avait joué au TNBA. Et ça, pour le coup, c'était un vrai concert. Enfin, c'était un spectacle, c'était un concert commenté, quoi, avec des instruments un peu particuliers. Et si je dis que je suis pas musicien, c'est parce que justement, là, par exemple, on jouait de la guitare, mais on jouait de la guitare de façon. On les prenait comme des raquettes de tennis, on tapait dans des ballons en faisant des accords. Donc on faisait une partie, si vous voulez, de tennis en jouant des accords. Donc on reprenait en l'occurrence le thème de Twin Peaks d'Angelo Badalamenti à la guitare tennis, quoi. Par ailleurs, je jouais aussi du sabre de frappe. Donc je frappais sur un sabre de frappe et je déclenchais des séquences de La jeune fille et la mort de Schubert, par exemple. Ou j'ai joué au piano aussi à cet endroit-là, mais je jouais au piano avec mes pieds. Donc je sautais sur le piano et ça provoquait donc des accords qui provoquaient d'autres choses par ailleurs, parce qu'il y avait tout un système de contacteurs électriques qui déclenchaient soit du son, soit des images. Bref, c'était un spectacle sur le rebond, comme ça, sur la composition musicale aussi, et comment on fabrique un morceau de musique. Et l'analogie entre la fabrication d'un morceau de musique, donc on rentre dans des détails un peu techniques de solfège, quoi, et la composition d'un paysage, donc la composition picturale plutôt. Ben, un gros bazar, c'était notre premier spectacle, et on a quand même joué ici à Chahut, c'était il y a 5 ans. Nous étions jeunes et beaux.
Bon, tu parles de paysage, je commence toujours d'habitude, là j'en ai rebondi sur Francis Bébé, par une question un petit peu bateau et type, mais est-ce que tu pourrais me décrire les lieux qui te plaisent, que tu fréquentes à Lille, et que tu nous parles un petit peu de cette ville?
À Lille? Alors Lille, oui, c'est la ville où j'habite, effectivement. En fait, j'habitais à Bruxelles, plus exactement, il y a encore 2 ans. Puis là, j'ai redéménagé à Lille. Et alors, à Lille, un lieu à Lille que j'aime bien. C'est marrant parce que, alors, je vais parler de Lille en général. Hein, mais Lille, en fait, c'est pas une ville comme je les aime à la base. C'est-à-dire que c'est pas une ville de recoins, c'est pas une ville de petits lieux, justement, qu'on apprécie comme ça, où on va se loger. comme à Bordeaux, par exemple, ou à Lyon, c'est des villes du sud, comme ça, où il y a plein de petites infractuosités, comme ça, urbaines, qui fait que, dans une dérive, on peut se retrouver à des endroits qu'on apprécie particulièrement, dû à l'espace urbain, comme ça. Lille, c'est une ville toute plate, très ouverte, où il n'y a pas de relief. Donc moi, ça me pose des problèmes en tant que montagnard auvergnat, qu'il n'y ait pas de relief. Donc c'est une ville que j'ai du mal un petit peu à habiter comme ça au niveau sensuel, quoi, je veux dire. Et alors, Lille, s'il y a un lieu que j'aime bien... en fait, moi, j'habite sur une petite île qui est dans Lille. C'est-à-dire, c'est une petite île qui est située au sud-ouest de Lille, qui s'appelle Bois Blanc, les Bois Blancs. Et je suis bien content d'habiter sur une île. Bon, c'est à Lille, hein, évidemment, mais mais c'est-à-dire que c'est tout proche du centre. Et cette île, elle est environnée de la Dole, la fameuse Dole, qui a une réputation pas géniale, quoi, mais bon, qui a quand même bien changé depuis les années 80. Et donc, ce dont je pourrais parler, c'est on peut pas se baigner toujours. Quoique, je pense que maintenant, moi en tant qu'Auvergnat, quand je suis arrivé à Lille il y a 12 ans, je me suis jeté dans la Dole parce que je pensais qu'on pouvait se baigner comme dans toutes les rivières du monde. En fait, non, pas du tout. Dans le Nord, on se baigne pas. Non, parce qu'il y a des industries qui sont assez lourdes. D'ailleurs, maintenant, j'ai des mycoses aux pieds depuis 15 ans. Je vous informe, ça va beaucoup mieux depuis quelques années, mais enfin, ça a été assez douloureux. Mon arrivée dans le Nord, vous pouvez en constater. Les stigmates du Nord. Non mais c'est vrai, on faisait une sortie, je dis n'importe quoi ou je peux dégraisser un peu. On faisait une sortie vélo, voilà. Donc j'arrivais à Lille et puis il y avait la DAV, donc Association pour le droit au vélo. Donc on part à vélo, on fait un petit tour et puis il faisait très beau, très chaud et puis il y avait un petit ponton et avec mon cousin qui est aussi auvergnat, on s'est jeté dans la Dole et là les gens nous ont pris pour des fous quoi. Il y a une sécu qui est arrivée qui nous a sortis de là tout de suite. En nous disant qu'il fallait qu'on aille à l'hôpital très rapidement. Non, on n'a pas été à l'hôpital, mais j'aurais dû parce qu'effectivement j'ai eu des problèmes. Bref, non, mais donc du coup, oui, s'il y a un endroit que j'aime bien, c'est peut-être la pointe de cette île. Donc c'est une île. Il y a peu d'endroits sauvages, il y a peu d'endroits pas très urbanisés à Lille parce que c'est extrêmement dense quand même comme ville. Et là, au bout de cette île, il y a un truc un petit peu délaissé comme ça, qui est post-industriel comme ça, qui tient encore sur des. Les gens viennent ici pour se reposer, mais ça n'a pas été aménagé complètement par nos pouvoirs publics chéris. Et donc c'est la pointe de l'île, c'est le moment où la Dole se sépare en deux. Et on a vu sur le port commercial de l'île, quoi. Donc il y a des gros cargos, etc. Et voilà. Et j'aime bien cet endroit-là parce qu'en plus j'ai un petit canoë. Donc des fois je pars, je fais le tour de l'île et puis je pars un peu dans cette espèce de petit estuaire là. C'est notre petit estuaire de la Dole. Vous avez l'estuaire de la Garonne. Nous avons un petit estuaire de la Dole qui se situe à Bois Blanc sur la pointe sauvage de l'île. Ouais, je pourrais parler de cet endroit-là que j'aime vraiment bien.
Est-ce que tu lis toujours de la philosophie?
Oui.
Parle-nous du dernier philosophe que tu as lu.
Attendez, parce que là j'ai une vie mouvementée. En ce moment on fait beaucoup de création. Et le spectacle vivant, c'est pas bon pour l'intellect et pour la poursuite d'une démarche intellectuelle à peu près normale. Alors le dernier livre que j'ai lu, attendez, je vais retrouver. Non mais que j'ai lu entier parce que là je lis plein de petites choses. Je vais parler de celui-ci parce que c'est le dernier que j'ai vraiment lu entier. Alors bon, c'était il y a quand même 6-8 mois, à ma grande honte, mais ça s'appelle Biographie croisée. Et en fait, c'est une biographie croisée de Gilles Deleuze et Félix Guattari, deux philosophes en tout cas Gilles Deleuze, il est un petit peu connu. Et voilà, et puis c'est deux philosophes que j'aime vraiment bien, que j'ai beaucoup étudié il y a longtemps quand j'étais étudiant. Et là, j'ai lu leur vie. Alors c'était fort intéressant quoi. Alors je peux en parler un petit peu? Ah bah oui. Alors qu'est-ce qui m'a franchement intéressé? C'est deux philosophes qui ont traversé une période de la vie politique française dans les années 70. C'était quand même fort intense. Et celui qui emporte le plus les stigmates ou la marque, c'est Félix Guattari. Félix Guattari, c'est un psychanalyste militant. Un peu délirant quand même, qui dans sa vie s'est engagé, enfin sa jeunesse le montre, il s'est inscrit dans tous les mouvements de jeunesse possible pendant quasiment 10 ans. Donc c'était les jeunesses communistes, c'était les jeunesses trotskistes. Enfin, il s'est inscrit immédiatement dans tous les mouvements de développement et de libération des mœurs, en gros. Et c'était une sorte de frénésie comme ça, hyper forte chez lui, et de mettre en relation des gens et de sans cesse. On a l'impression que tous les jours de sa vie, il a mis en relation quelqu'un et il a fait en sorte que quelque chose se passe, quoi. Et il est épuisant. Je pense que c'était un homme qui était complètement épuisant à vivre au quotidien, mais il y a une beauté comme ça de la... de l'implication sociale, politique et d'expérience aussi psychanalytique, puisqu'il était psychanalyste, qui est complètement dingue, j'ai trouvé. Enfin, je vois pas de. Je comprends pas comment ils faisaient à l'époque au niveau de leur santé physique et mentale, parce que pour être à ce point engagé comme ça dans des mouvements de la vie. En plus, il n'y avait pas internet, il n'y avait pas de téléphone portable. Comment ils faisaient? C'est pas possible. Alors, ils avaient sans doute d'autres façons de communiquer ou de par télépathie peut-être, je sais pas, mais c'était ouais, donc il m'a quand même vachement bluffé, ce gars. Alors après il en a bien trop fait, je pense que dans sa vie il a quand même, on voit quand même dans le cours de sa vie qu'il en a quand même subi des conséquences familiales et puis morales aussi, donc il s'est un peu effondré à 60 ans à peu près parce qu'il en avait un peu trop fait. Donc il y a quand même une justice, ça m'a quand même fait plaisir de voir qu'à un moment donné, non je rigole, mais non, mais c'est voilà, donc, ce parcours de Félix Guattari m'a vachement impressionné.
Et tu parles de Deleuze, est-ce que tu souscris à son concept de déterritorialisation?
Disons que je me suis fortement intéressé, ouais. Après, ce concept de déterritorialisation, c'est comme tout le jargon philosophique comme ça, parce que les philosophes ils veulent essayer de comprendre des choses, donc ils essaient de trouver des mots ou d'inventer des mots ou de prendre un mot qui existe déjà mais de tordre un petit peu pour décrire une réalité qu'ils veulent faire émerger. Donc déterritorialisation, c'est une invention complète de Guattari et Deleuze pour décrire un processus qui n'est pas si complexe que ça, mais par contre, vu qu'il y a territoire dedans, vu qu'il il est fortement galvaudé, c'est-à-dire que maintenant, je pense que la façon dont on l'utilise de nos jours, et ce qui est très bien, c'est pas grave, quoi, un mot, ça fait son chemin de vie. Je suis pas certain qu'on ait la même. Enfin, des fois, quand je parle avec des gens de déterritorialisation, c'est pas forcément la même chose que moi j'identifie. Mais sinon, donc le concept en tant que tel, moi je trouve qu'il est puissant, c'est-à-dire qu'il m'aide bien à penser des choses dans mon travail, dans le rapport à la ville par exemple, et dans le rapport à la politique urbaine notamment, ouais. Ouais.
Alors je sais pas si c'est galvaudé, moi je l'entends comme partir de chez soi pour mieux revenir. Est-ce que c'est de s'enrichir en partant et de revenir et d'apporter ce que tu as pu découvrir à l'extérieur, à l'intérieur, donc dans tes racines? Est-ce que c'est quelque chose qui est proche de ce qu'il voulait définir ou pas du tout?
Alors moi je suis pas un spécialiste, je peux pas dire si oui ou non c'est proche. Ouais, je pense qu'il y a forcément ce mouvement là qui peut exister chez un individu. Après, là, le concept de territoire chez lui, en fait, la déterritorialisation, ça vient d'une étude qu'il a fait sur les Tziganes, sur les Roms, sur les nomades en fait plutôt, sur les peuples nomades. Et il explique globalement que les nomades, s'ils bougent, s'ils n'arrêtent pas de bouger de territoire tous les 3 mois, ben, en Mongolie par exemple, ils sont tous nomades et tous les 3 mois ils font des camps, etc. S'ils bougent, c'est justement parce qu'ils veulent rester au même endroit. C'est-à-dire qu'ils veulent rester sur la même terre. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont plus ce qu'il faut pour pouvoir vivre là où ils sont, donc ils sont obligés de bouger pour rester les mêmes. Et en fait, ce qui est assez marrant, c'est que les nomades, c'est eux qui tiennent une identité très forte, quoi. Ce qu'on dit, les Roms, c'est l'âme de l'Europe, par exemple, parce que c'est les seuls qui en bougeant, ont réussi à tenir justement une identité très forte. Mais alors, ce qui est marrant, c'est que ça renverse complètement la façon dont on voit les peuples nomades, justement, par exemple. Et donc là, ils se déterritorialisent pour mieux conserver une trame de leur identité, par exemple. Donc ce dont tu parles, par exemple, de partir pour mieux revenir, c'est ces questions-là, ouais. Mais c'est vrai que souvent, la déterritorialisation, c'est un truc très simple, hein, très, 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 très bête à la base de rapport au territoire. Et souvent, on le mixe tout de suite avec des questions d'identité, ce que tu viens de faire, par exemple. Et je ne suis pas sûr que ce soit forcément immédiatement la question de ce concept. Mais ceci dit, ça vient très très vite, généralement, dans la discussion.
Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la Malterie, de ce qui s'y passe? Je suppose que tu connais donc Musique, Circum, tous ces gens-là. Oui, je connais bien.
Moi je suis rentré à la Malterie. Moi j'ai travaillé pendant 5 ans à la Malterie. J'étais administrateur et puis chargé de développement du projet, quoi. Donc j'ai monté le projet financièrement, physiquement aussi, parce qu'à l'époque il n'y avait rien. Et je suis rentré par le biais de la musique, parce que je m'intéressais beaucoup à la musique expérimentale, à la musique improvisée, le jazz contemporain, et par le CRIM, enfin ce qui maintenant s'appelle Musix. Le Centre Régional d'Improvisation et de Musique Expérimentale. Et ben, ce que je peux en dire aujourd'hui, c'est que voilà, ça fait maintenant 7 ans que j'ai quitté ce truc-là, enfin que j'ai pris un peu de recul. Et ben voilà, je veux crier, je veux donner un signal d'alerte, je veux crier aujourd'hui ma colère, car la malterie va sans doute fermer. Ouais. Alors en fait, bah, de toute façon, on est dans la, c'est comme ça partout en France. Je veux dire, il y a le TNT qui a fermé il y a 5 ans chez vous, à Bordeaux. Il y a l'AEL à Bruxelles qui, tous les, enfin, Fructose à Dunkerque qui sont menacés par la communauté urbaine. La Malterie à Lille, c'est hyper compliqué. Tous les lieux intermédiaires, c'est-à-dire tous les lieux qui sont pas des décisions qui viennent du haut, quoi. En gros, qui sont labellisés, des lieux qui sont labellisés culture par le ministère. Bah, c'est super difficile. Et c'est que des lieux qui justement donnent le champ, c'est-à-dire qui permettent à des artistes comme nous, par exemple, d'avoir pu démarrer un tout petit peu nos premiers projets, quoi. Qu'est-ce qui se passe ? Donc, je continue. Et voilà, bah, et la Malterie, bah, c'est une association, c'est une démocratie un peu complexe parce qu'ils sont une centaine à travailler là-dedans. Donc c'est tout un travail un peu lourd de politique, quoi. Et donc les décisions se prennent lentement. Et ben voilà, la réactivité n'est pas suffisante pour des municipalités. En ce moment, ils sont super menacés sur leur lieu, en tout cas. Et ils n'arrivent pas à décrocher de l'idée qu'ils peuvent faire ça ailleurs. Donc ils restent attachés à leur lieu. Et je pense que ça, c'est en train, là, vraiment de prendre une mauvaise tournure. Et moi, je n'ai rien à plus faire.
Mais dis-moi ce qui s'y passe. Qu'est-ce qui s'y passe dans la Malterie ? Décris-moi un petit peu.
Oui, la Malterie, avant tout, faut d'abord que je dise ce que c'est. C'est une ancienne brasserie. C'est la dernière brasserie intramuros de Lille. Très très belle brasserie, la brasserie de La Haye, où on faisait donc des bières, mais aussi on faisait sécher le malt. Et donc la Malterie, c'est la partie où on faisait sécher le malt. Donc c'est un bâtiment très ingrat, puisque les plafonds sont à 1m80, puisque pour faire sécher du malt, on n'est pas dans beaucoup de hauteur. Et donc il y a 5 plateaux comme ça, assez grands, de, je sais pas, 300 mètres carrés, de 1m80 de hauteur, comme ça. C'est une sorte de petit bâtiment de... un rat comme ça, et puis alors les gens sont à l'intérieur. Et donc il se passe des concerts. Donc le rez-de-chaussée, c'est des concerts, je sais pas, il doit y avoir à peu près 4-5 concerts par mois, je pense, à peu près. Au rez-de-chaussée, il y a des studios de répétition de musique qui sont au nombre de 5, donc il y a une centaine de musiciens qui répètent parce qu'ils s'échangent les horaires, etc. Et puis aux étages, il y a des ateliers d'artistes plasticiens. Et au dernier étage, il y a un plateau de travail commun. Voilà, et donc, ben, il y a une centaine d'artistes qui travaillent sur place, musiciens et plasticiens confondus. Et puis, il y a des invités, enfin, ils invitent des résidences régulièrement et il y a des concerts. Donc, c'est un lieu de croisement des disciplines, c'est un lieu de vie sociale et artistique. C'est un peu l'antichambre de la création lilloise, quoi, si vous voulez. C'est un peu tout ce qui se passe là, au niveau, ce qui se passe avant, ce qui n'est pas visible, ça se passe généralement là, quand ça sort un peu plus tard, ils sont passés par la Malterie, les gars, généralement.
Alors on va faire une petite pause musicale justement avec un projet de David Bosseron, les Dirty Primitives avec Backdoor Mars.
everyone's asleep. I'm making my midnight crew. In the morning when the roosters crow, something tells me I have to go, I have to go.
Dirty Primitives, projet de David Bosseron. J'aimerais maintenant que tu nous décrives un épisode de l'hôpital de la dernière chance.
Elle est hyper bien renseignée. Hein. Attends, il faut que je mange un petit peu. Je voulais un petit peu d'eau aussi, si jamais. C'est incroyable que tu parles de ça parce que. Mais comment. Tu l'as vu ? Non ? Et comment t'as fait pour savoir ça ? Putain, délire, non mais le gros délire quoi, incroyable. Alors l'hôpital de la dernière chance, titre évocateur s'il en est, c'est un des premiers projets que j'ai fait dans Spectacle Vivant. C'est un peu ce qui m'a fait vriller malheureusement pour moi. Et donc c'est un projet qui était porté par Laurent Petit, peut-être connu, psychanalyste urbain. Donc il couche les villes sur le divan, si vous voulez, pour les faire accoucher de toutes ces névroses et frustrations, psychoses et autres traitements thérapeutiques de choc qu'il va donc administrer aux villes. Je sais pas s'il a déjà fait Bordeaux, je pense pas, parce que vous avez pas l'air... Ben voilà, donc il officie... Enfin, c'est les villes qui demandent hein, à chaque fois. Lui, c'est les villes qui payent, ouais, très cher. Et bref, donc il a fait ça, mais avant ça, il avait fait d'autres projets qui étaient plus, bon, il se cherchait un peu, quoi, on va dire. Et donc l'hôpital de la dernière chance, qui était un projet délirant qu'on a fait en 2004. Et donc je peux raconter une séquence de l'hôpital de la dernière chance. Et ben globalement, en fait, il s'agissait d'annoncer que la fin du monde était proche et que bon. Ouais, c'était la... il y avait des thérapies sauvages à inventer, il fallait réinventer des centres de thérapeutiques, des pèlerinages de thérapeutiques généraux pour qu'on change un petit peu la donne, quoi. Et globalement, il y avait une dizaine, une douzaine de tests, d'expériences thérapeutiques qui étaient livrées comme ça, on livrait les gens. Alors, une expérience qui était vraiment intéressante, que j'avais continué pas mal après, c'était ce qu'on appelait le baptême de terre. Et globalement, il y avait une immense bande de terre, donc de terre glaise, la belle terre bien fraîche comme ça, et donc tous les gens s'installaient en tailleur les uns à côté des autres, ont demandé aux gens de s'enduire le visage d'huile, et puis de s'approcher de la terre, et nous on passait derrière eux et on leur enfonçait la tête dans la terre violemment. C'était un peu choc, hein. C'était un peu une thérapie choc, mais globalement ça fonctionnait bien. Et donc l'empreinte de leur visage, ils étaient complètement déformés par la violence de la poussée. Et après, une fois qu'ils avaient fait ça, donc on leur demandait de souffler tout doucement pour décoller leur visage, et après on faisait un moulage de leur visage. Et après, bon, là, ils faisaient des choses avec ce moulage-là, quoi. Et ça, par exemple, c'était voilà, le baptême de terre. C'était une des thérapies de choc de l'hôpital de la dernière chance. Ouais. C'était il y a 10 ans, quoi. Ouais.
Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu d'Antoine Defort et de son travail? Enfin, je sais pas comment on dit. Defort. Defort.
Defort. Defort, parce qu'il est né à quelques kilomètres de la frontière belge, à Jeanlin, d'ailleurs, Jeanlin, connu pour sa industrie brassicole. Antoine Defort, il était là, hein, il y a peu de temps, hein, vous l'avez vu au téléphone, vous l'avez vu à la radio? Non, il n'est pas venu. Que depuis aujourd'hui? Sporadique, d'accord. Antoine Defort, c'est quelqu'un qui est bon, qui est pas plus artiste que vous et moi, comme il le dit lui-même, hein, qui a des passions, qui a des lubies, et vu qu'il a une faculté un petit peu à s'adonner à ses passions de façon extrême, ben ça en devient, il a généralement assez persuasif dans sa façon de communiquer cette passion. Donc on finit par s'y intéresser, quoi, à force qu'il nous en parle généralement. C'est ça, Antoine Defort, en gros. Non, je fais un portrait très très méchandu, j'espère qu'il n'écoutera jamais ce truc là. Antoine Defort, mais en fait je travaille avec lui depuis 10 ans, moi, c'est mon frère d'armes, donc j'ai pas tellement de point de vue sur lui, c'est un peu moi, je suis un peu lui, c'est un peu bizarre de parler de lui comme ça. Alors oui, si, c'est quand même je crois que quand même ce qui fond de son travail, c'est un travail sur le langage. En fait, il est passionné par le langage, et notamment par cette faculté qu'a le langage à se planter tout le temps, à faire des erreurs en permanence. C'est-à-dire que le langage, c'est quand même quelque chose de très très boiteux, quoi. C'est-à-dire que ça marche jamais, on n'entend jamais vraiment ce qu'il faut, etc. Et la marge d'erreur que nous permet le langage, ça s'appelle souvent l'humanité, généralement, et ben le passionne. Et donc lui, il travaille dans ces interstices-là de la faiblesse de notre façon de communiquer, donc de nous comprendre, de nous entendre, de nous aimer, de nous...
Bon, j'ai plein de questions, mais je sais que tu es un petit peu pressé, donc je vais être obligé de ne pas toutes les poser, mais comme vous ne savez pas ce que j'allais poser, hein, c'est pas grave. Hein. Non, c'est très bien, pas de rapidité, on prend le temps qu'il faut. Qu'est-ce que je vais te poser? Oui, alors pourquoi cette définition là que j'ai trouvée, les jeux librement choisis pour ceux qui s'y livrent restent le refuge des rêveurs comme aussi l'exutoire pacifique des violents? Et tu pourras peut-être aller vers ce que tu vas nous proposer cet après-midi, quoi, puisque je crois qu'il s'agit d'un jeu. Mais on peut partir de cette définition, je te la redis peut-être si tu veux, ou tu... Ouais. Les jeux librement choisis par ceux qui s'y livrent restent le refuge des rêveurs, comme aussi l'exutoire pacifique des violents.
Eh bien écoutez, c'est une définition, je pense, qui nous provient tout droit de Wikipédia, ce fameux site... Non, alors en fait, c'est... Oui, Mais je sais bien, c'est dans mes dossiers, mais alors on est plusieurs dans un projet. Et parfois il y a des. Là en l'occurrence, c'est une phrase que je n'arrive pas tellement bien à comprendre pour l'instant, qui émane d'un collègue quoi, qui fait le projet avec moi, d'une personne en particulier, à qui je vais retourner la question très vite. Non, mais en gros, bah oui, le jeu, je pense que. Ben c'est marrant parce que là, comme ils en parlent, en gros, c'est une sorte de c'est une pratique qui fait en sorte que ben les problèmes de communication qu'on a, la violence qui peut émaner d'un groupe humain peut quand même se résoudre à travers le jeu. Globalement, elle dit ça à la fin de cette phrase. Et au début, elle dit aussi que c'est le refuge des rêveurs. Donc il y a cette espèce de coexistence là entre en gros un pansement social qui fait qu'on va un peu couvrir des ouais, mais là on pense carrément à des trucs comme le sport quoi, le mondial, la continuation de la guerre d'une autre façon un peu plus douce qui est fort utilisée par le pouvoir en place, et puis par ailleurs le refuge des rêveurs, mais ce sont les jeux librement choisis, c'est ça qu'elle dit à la phrase au départ. Et donc effectivement là, ça change tout. Non, mais c'est vrai, ça change tout dans la mesure où, si le jeu on l'a inventé nous-mêmes, on l'a trouvé nous-mêmes, on n'est pas forcé d'y jouer, mais on s'adonne à un jeu. Le jeu, c'est quand même un petit monde en soi. C'est-à-dire que c'est une réappropriation d'un moment où on va se donner des règles communes. Parce que le jeu, c'est la règle. Hein. C'est une écriture d'une règle. Et c'est suivre une règle. Donc par extension, en gros, la loi, quoi. C'est-à-dire que le jeu social, ce serait la loi, c'est le code civil, etc. Bon, c'est un super grand jeu. Mais globalement, si on fait une réduction de cette chose-là, bah, en gros, les enfants, tout cas, font ça très très bien généralement, mais aussi les adultes, hein, aussi nous, par exemple, on est dans un rapport à la règle et donc à un microcosme humain, quoi. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire avec ça? Du coup, j'ai l'impression que le jeu, c'est une expérience, c'est tout le temps une expérience sociale et politique quasiment. Et donc là, on fait un projet sur les jeux, par exemple, qui est venu. Ils ont fait ça parce que moi, je pouvais pas venir, mais jeudi là, ça s'appelle Collectif Jambes. Et j'ai l'impression que c'est un des projets les plus politiques que j'ai fait, alors que c'est sur le jeu et que c'est plutôt genre le plaisir, le divertissement, on va jouer à ça, c'est rigolo. Et en fait, j'ai l'impression que ça touche à des endroits de la communauté, de la question de la communauté, de la question du vivre ensemble, que j'avais jamais tellement touché autant que par le jeu. Donc pour dire que le jeu, c'est refuge des rêveurs, et en fait, c'est quand même une forme d'expérience ou de réappropriation des règles de la vie, c'est un truc libertaire quasiment quoi, à certains endroits. Si le jeu, il existe des grands jeux par exemple urbains qui durent 2-3 mois par exemple, où il y a une cinquantaine de personnes qui vont décider d'avoir d'autres règles de vie ou de façon de gérer leurs relations en gros par quelques règles qui vont être posées, et ça va découler de ça une appétence, une envie de, enfin des relations un peu particulières, et généralement ça se substitue un petit peu à des règles sociales normées quoi. Et donc c'est une façon de dénormer un peu la réalité, c'est une façon aussi de faire une expérience de soi et de la communauté qui est toujours inédite. Et dans la mesure où c'est librement choisi, c'est inventé sur le moment, c'est trouvé et c'est expérimenté par les gens qui l'ont choisi, ouais, là ça devient un acte libertaire fort par moment. Donc le refuge des rêveurs peut-être, oui, mais en même temps une véritable praxis sociale quoi. Ah oui. Oui, parce que je dis n'importe quoi, mais peut-être que je parle de ce que je vais faire cet après-midi. Donc oui, ça s'appelle. Bah, c'est un jeu. Bah voilà, mais en fait, moi, je suis un ludophile complet. Alors si je parle d'Antoine Defort,
T'es ludophile ou ludopathe?
Voilà. Bah moi, je suis ludophile, c'est-à-dire que j'aime beaucoup jouer, mais Antoine Defort, lui, c'est un ludopathe complètement psychotique. C'est-à-dire qu'il ne fait que jouer. C'est-à-dire qu'en fait, il ne peut pas vivre. Enfin, il ne peut rien faire si c'est pas un jeu. Il faut toujours dire, allez, on fait un jeu. On dirait qu'on va jouer à faire l'administration de la compagnie, par exemple. Alors, là, d'accord. Sinon, si on fait juste l'administration, ça lui va pas. Il est vraiment ludopathe. C'est-à-dire que, par exemple, une fois, je peux raconter une anecdote sur Antoine Defort. Une fois, Antoine Defort, il est venu chez moi, j'avais récupéré un petit jeu électronique des années 80, tout pourri, là où c'était un surf qui devait éviter des requins. Donc c'était vraiment très 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 pénible comme jeu, il y a trois trucs à faire. Et il a joué pendant 2h15 pour finir le jeu, il a fait 520 000 points, il a fini le jeu intégralement sans me parler. Par exemple, ça c'est un ludopathe quoi, c'est-à-dire que là... Et donc, et vu que c'est un ludopathe, ben, il n'arrête pas de créer en permanence des... Ben là, par exemple, s'il était là, je pense qu'il aurait créé une sorte de petit jeu de questions-réponses ou autre chose comme ça. Et donc, ben, étant donné qu'on a fait des spectacles ensemble et qu'on a fini par tourner beaucoup certains spectacles, on s'est pas mal... C'est chiant de tourner, hein. Des fois, on n'est pas toujours accueilli comme HAU, être chez des gens, chez des vrais gens, etc. Des fois, c'est quand même l'hôtel, c'est un peu redondant comme ça. Et on a fini par jouer beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Et donc à trouver, je sais pas, une quarantaine de jeux auxquels on se livrait. Voilà, parce que lui, il peut pas faire autrement, et puis que moi j'adore ça, en gros. Donc, et donc on a fait des spectacles. Et donc un des premiers jeux qu'on a fait, c'est le jeu de loi du spectacle vivant. C'est-à-dire qu'on a retracé dans un jeu de loi le parcours de la fabrication d'un spectacle, parce que c'est ce qu'on faisait. Depuis l'étape numéro 1, écriture du projet, jusqu'à l'étape numéro 14, tournée. Voilà, on a dit, il y a tout un tas d'étapes comme ça, et puis on a retracé ce truc-là, et on a proposé aux gens de pouvoir fabriquer un spectacle. Par le truchement d'un jeu, si vous voulez, quoi. Voilà, donc par exemple là, clairement, on était face à une réalité qui était un peu qu'on connaissait pas, c'est-à-dire le monde de l'univers étrange du spectacle vivant, et on a fait un jeu pour pouvoir la comprendre et retrouver nos propres règles à l'intérieur, tout ce dont je parlais, et après la transmettre pour que les gens puissent éventuellement faire des spectacles eux-mêmes, puisqu'on va pas tout le temps faire des spectacles nous-mêmes, chacun peut faire son spectacle. Donc on donne les outils pour pouvoir les fabriquer. En gros, c'est une sorte. Ce que je vais faire cet après-midi, c'est une sorte d'atelier de partage d'outils de fabrication de spectacles. Si vous ou quelqu'un de votre entourage a envie de faire un spectacle, je donne des outils, je partage. Et voilà.
Bon, le temps passe très très vite avec toi, on s'ennuie pas du tout, mais l'heure vient de s'écouler. On va finir avec un autre jeu, puisque le temps est au prélude à l'après-midi d'un faune. Jeu de vagues de Claude Debussy pour finir. Merci Julien. Et on se retrouve au Poisson Rouge tout à l'heure à 17h. Et 19h, je sais pas, mais par là.
gradation et digression.